en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Bonjour, bienvenue dans un habit vert aujourd'hui revêtu par Anatole France. Messieurs, je vous ferai d'abord mon compliment. Vous approuvez que j'emploie sans parure le mot en usage parmi vous depuis 2 siècles et demi. Je vous rends grâce de m'avoir admis dans votre compagnie la plus illustre du monde. C'est par ces mots que le 24 décembre 1896, Anatole France remerciait ses pairs à l'Académie française où il avait été élu le 23 janvier précédent au 38e fauteuil, laissé vacant par la mort de Ferdinand de Lesseps. La réception sous la coupole de l'odeur du lys rouge et des dieux ont soif ne constituait pas en soi une surprise dans la mesure où l'Académie, en couronnant de son grand prix du roman « Le crime de Sylvestre Bonnard » quelques années plus tôt, avait clairement montré tout le bien qu'elle pensait du romancier, poète et critique littéraire. De son vrai nom François-Anatole Thibault, celui qui a choisi Anatole France pour nom de plume est né à Paris le 16 avril 1844. Il appartient par son père à une famille angevine de tradition légitimiste. Ce père, sous-officier, avait fait le choix de quitter l'armée en 1830. Devenu libraire d'anciens, quai Malaquais, il s'est spécialisé dans la vente de documents concernant la Révolution. Toute l'enfance du jeune Anatole France s'est passée dans la librairie paternelle. Et de son propre aveu, c'est dans une vieille Bible illustrée du XVIe siècle qu'il a appris à lire. Tout le jour, l'enfant feuilletait les ouvrages de la librairie et, devenu adolescent, il en assura plus d'une fois la collation et la recension, tout comme il devait souvent rédiger les catalogues de la librairie familiale. Ainsi, cet univers de la bibliophilie a joué un rôle non seulement dans la formation intellectuelle du futur romancier, mais elle a aussi servi de théâtre à certains de ses propres ouvrages par la suite. À la fin de sa vie, Anatole France confiait volontiers à ses visiteurs que le dictionnaire de Moréry avait été le livre de chevet de son adolescence. Si la fréquentation assidue de la librairie paternelle a joué un grand rôle dans la formation d'Anatole France, développant notamment son imaginaire, son emplacement sur le quai Malaquais s'est également révélé stratégique. Toute sa vie, Anatole France a voué à Paris un amour qui ne s'est jamais démenti. En particulier à ses quais graves et laborieux qui commencent au Pont Neuf et finissent au Pont Royal. C'est d'ailleurs ce que se plut à remarquer Octave Gréard, directeur de l'Académie française, quand lui revint le 24 décembre 1896 le privilège de recevoir Anatole France sous la coupole. Je cite Gréard, « Vous devez peu de choses au collège dont vous avez suivi les cours. Vous étiez de ces élèves, tourments et joie du maître, qui flânent autour des devoirs, se dérobent à l'explication commune et, suivant la fantaisie à laquelle elle a donné l'éveil, se font à eux-mêmes en dedans la leçon qui leur plaît. Pour retenir votre intelligence à la fois musarde et vagabonde, pour répondre aux instincts de votre goût qui se montra de bonne heure très exigeant, il aurait fallu que dans la classe, tout, hommes et idées, se trouvât en harmonie avec les textes qu'on y étudiait. » Il est important en effet de souligner que l'imaginaire d'Anatole France s'est développé très tôt et qu'il a semblé d'abord sans limite. Nourri par les ouvrages de la librairie paternelle qui exaltaient l'amour de la gloire, encore renforcé par l'ambition d'une mère qui nourrissait pour son fils les plus vives ambitions, il a été consolidé par les promenades de l'adolescent dans les rues du Vieux Paris ou au département des Antiques du musée du Louvre, témoin de ses après-midi où il séchait les cours du collège Stanislas. Plus tard, le romancier, en se souvenant de ses jeunes années, dira « Je nourrissais le désir de m'illustrer sans retard et de durer dans la mémoire des hommes. » Un choix qui, paradoxalement, devait faire le désespoir de son père quand il lui avoua qu'il nourrissait d'autres projets que celui de reprendre la librairie familiale. Cette enfance passée au milieu des livres d'histoire, des basanes et des in-folios, cette adolescence de piétons de Paris ont aussi contribué à faire d'Anatole France le styliste qu'il est devenu et ce maître de la vie intérieure. Ce n'est en effet pas un hasard si ses contemporains ont volontiers comparé Anatole France à Montaigne, rattachant aussi cet épicurien lucide aux moralistes du XVIIIe siècle français, aux encyclopédistes désenchantés et, d'une manière générale, à tous ceux qui, comme ce grand amateur de contes, ont déploré que la science ait perdu la sérénité de ses premières espérances, livrant aux humains un monde froid et désenchanté où la raison a tué toute forme d'imaginaire. Et toujours à propos de cette vie intérieure, si riche et si féconde chez l'auteur des Dieux en soif, Octave Gréard notait, je le cite à nouveau, « Pour vous, c'est toute une doctrine psychologique. Vous n'admettez pas que nous sortions jamais, que nous puissions sortir de nous-mêmes. Vous estimez que nous ne voyons les choses qu'en nous et par rapport à nous. Personne n'a poussé plus loin que vous le goût et la pratique de cette vie intérieure dont on parle tant aujourd'hui. » Toujours à propos du styliste que fut Anatole France, Gabriel Hanotaux, à qui revint de faire l'éloge funèbre de l'auteur du Lys rouge le 18 octobre 1924, notait « Il fut le plus grand écrivain par excellence, le plus français par la langue, par l'ingéniosité créatrice, par la sagesse tempérée et fleurie. Le don qu'il reçut à la naissance, c'est celui de la vérité dans la fiction. Il disait lui-même que la fiction était un délicieux moyen d'expression de la vérité. » C'est en cela, probablement, que France est l'héritier et le dauphin de la langue française. Alors que régnait en maître le naturalisme, il fut le maître de ce qu'on pourrait appeler le dialecte de Paris, si pur, si frais, si fin, devenu au fil des siècles la langue française. Une langue faite de simplicité, de nonchalance et d'harmonie, d'exactitude et de franchise, une langue enfin dont il fut le défenseur jaloux. Selon Hanotaux, ce qui devait achever de gagner à Anatole France tous les suffrages dus aux grands écrivains, c'est bien la langue de ce cycle glorieux qui va de Thaïs au Dieu en soif en passant par le Lys rouge. Il n'en est pas moins vrai qu'amoureux de Racine, France est grec à la manière de l'auteur de Phèdre et de Britannicus. Il s'inscrit dans la tradition classique, la vraie, c'est-à-dire celle qui n'est ni sèche ni abstraite, mais au contraire profonde et pénétrante, d'une grâce à la fois souriante et déchirante. Une autre influence est venue, à la fin de sa vie, renouveler la langue de ce styliste, et cette influence, c'est celle de la Touraine et des bords de Loire. Là, au cœur de la France, à l'endroit même où chantèrent Voiture et Racan, Ronsard et Rabelais, Anatole France poursuivit jusqu'à la fin son travail de puriste. Dans les dernières années de sa vie, Anatole France était installé à la Béchellerie, un ermitage plein de charme situé sur les hauteurs de Saint-Cyr, en face de la ville de Tours, sur les bords de la Loire. Parlant de la Touraine, le romancier confessait « J'aimais la campagne, je l'aime aujourd'hui avec des frissons, des troubles délicieux. J'étais destiné à n'aimer qu'elle. Je devais y couler les années les plus douces de ma vie. » Là, dans ce paysage de tempérance où l'excès est absent du relief et du fleuve, comme il l'est des ciels et des paysages, tout dit la mesure et l'équilibre. L'amoureux de Paris y découvrit peu à peu les charmes de la nature. Dans son éloge funèbre, Gabriel Hanotaux rappelait lui aussi ce que la Touraine avait apporté à l'ermite de la Béchellerie. « Il est mort, disait-il, dans cette Touraine, au cœur de la patrie, sur les bords de cette Loire qui roule en ses flots rompus et nonchalants, les douceurs et les aménités du vieux pays gaulois, et qui va reliant toutes nos provinces comme son génie à lui relia tous nos génies. Il acheva la vie en fleurs, puisqu'il l'appelait ainsi, dans un jardin, sur l'un de ces coteaux de Loire d'où nous sont venus Rabelais et Descartes, La Fontaine par sa mère, Voltaire par la race, et qui, depuis la Renaissance, nous ont fait largesse de ce qu'il y eut de plus exquis dans la grâce et la raison française. » Le discours plein d'emphase de Gabriel Hanotaux, discours prononcé, je le rappelle, au nom de l'Académie française à l'occasion de la mort d'Anatole France, ne doit toutefois pas masquer les relations complexes que l'écrivain a entretenues sa vie durant avec l'Institut. L'Académie a attribué en 1881 son grand prix au crime de Sylvestre Bonnard, premier grand succès populaire d'Anatole France, alors âgé de 37 ans. On sait que l'octroi de ce prix est généralement considéré comme un signe que le Quai Conti envoie à un romancier dont elle estime qu'il a toute sa place sous la coupole. L'élection survint, elle, en 1896, et Anatole France fut alors préféré à Francis Charme dès le premier tour de scrutin. Pourtant, la personnalité, et plus encore l'engagement du romancier, vont peu à peu contribuer à le singulariser. C'est que devenu un écrivain célèbre, riche et influent, France s'engage en faveur de nombreuses causes. Il dénonce ainsi le génocide arménien, rejoint Émile Zola au lendemain de la publication de sa lettre « J'accuse », demandant lui aussi la révision de l'affaire Dreyfus. Ses choix vont contribuer à l'isoler de ses confrères académiciens et, assez vite, Anatole France, qui a entre-temps participé à la création de la Ligue des droits de l'homme, décide de ne plus siéger sous la coupole. L'ami de Jean Jaurès, le collaborateur de l'Humanité et du Temps, organe pour lequel l'ancien disciple de Lecomte de Lisle et le chantre du mouvement parnassien tient une chronique littéraire qui fait autorité, est proche désormais de la SFIO. Pendant la Première Guerre mondiale, après avoir sacrifié un court moment à l'égarement nationaliste et germanophobe, un travers après tout qui fut aussi un court moment celui de Bergson, il rejoint le camp des pacifistes. Suivant avec intérêt l'évolution de la révolution russe, l'auteur des « Dieux ont soif » et de « L'île des pingouins », le penseur nourri des excès de 1793, ne peut s'empêcher de critiquer les premiers procès faits aux socialistes révolutionnaires russes dès 1922. Pour son 80e anniversaire, au lendemain de la victoire du cartel des gauches, Anatole France, qui est lauréat du prix Nobel de littérature en 1921, assiste à une manifestation publique donnée en son honneur au Trocadéro. Riche et célèbre, il est devenu la conscience de la gauche française et l'écrivain officiel de la Troisième République. On notera d'ailleurs le paradoxe que constitue cette quasi-panthéonisation d'un homme qui, en prenant le droit à l'imaginaire, s'est toujours affiché comme un adversaire des programmes scolaires de Jean Massé et des Hussards Noirs, tourné vers la seule raison. À sa mort, survenue à la Béchellerie le 12 octobre 1924, celui qui avait servi de modèle à Marcel Proust pour le personnage de Bergotte dans La Recherche ne semble pas avoir d'imitateur. La voie qu'il avait tracée en littérature ne sera pas suivie par la jeune génération. Au contraire, même, Anatole France sera honni par cette génération que forment les dadas et les surréalistes. Drieux, La Rochelle et Aragon ne se montreront pas tendres avec lui, qui signe à son endroit un texte intitulé « Avez-vous déjà giflé un mort ?» dans lequel on peut lire cette phrase « Je tiens tout admirateur d'Anatole France pour un être dégradé ». Quant aux autres écrivains, à côté de ce génial chantre du style qu'est Marcel Proust, qui contribuera à immortaliser l'auteur des Dieux ont soif, on trouve aussi André Gide, qui ne cache pas que pour lui, tout est fadeur dans le style et que la prose d'Anatole France, archétype de l'écrivain officiel, est, je cite, « sans inquiétude ». Mais c'est finalement l'Académie elle-même qui va, sans le vouloir, donner le coup de grâce à Anatole France, en la personne de son successeur au 38e fauteuil, Paul Valéry. Le 23 juin 1927, trois ans après la mort d'Anatole France, Paul Valéry prend possession du 38e fauteuil après avoir été élu quelques mois plus tôt à l'Académie française. Le discours qu'il prononcera ce jour-là est un modèle du genre. On sait que l'usage veut que le nouvel académicien fasse l'éloge de son prédécesseur. Même si elle donne lieu à des panégyriques qui sont parfois un peu convenues, cette tradition vient rappeler qu'on est sous la coupole entre gens de bonne compagnie. Or, Paul Valéry n'était pas précisément l'ami d'Anatole France. Il lui vouait même, au contraire, une rancune tenace pour avoir, des années auparavant, refusé d'éditer Stéphane Mallarmé. À la fois brillant, drôle et d'une absolue mauvaise foi, le discours de réception de Paul Valéry est demeuré une sorte d'antimodèle pour les impétrants à l'un ou l'autre des 40 fauteuils de l'Académie française. après s'être acquitté des remerciements d'usage et avoir exprimé sa joie d'avoir été jugé digne de siéger parmi ses 39 confrères, l'auteur du cimetière marin annonce qu'il tient à faire acte de mémoire et par là même à rendre hommage à ses confrères disparus. Mais c'est en fait à René Boilev qu'il décide de rendre hommage. Ensuite, se lançant dans un rappel des grands courants littéraires du siècle passé, après avoir évoqué le romantisme et le naturalisme, Paul Valéry fait l'éloge du courant symboliste. Pour l'auteur de La Jeune Parque, c'est d'abord le moyen de venger l'avanie faite à Stéphane Mallarmé quelques années plus tôt par Anatole France. Sans citer une seule fois le nom de celui qui fut le chantre du mouvement parnassien, mais aussi un critique littéraire réputé au journal Le Temps, Paul Valéry l'assassine en estimant que le symbolisme ne pouvait, je cite, « que réjouir les amants d'une beauté qui n'est pas immédiate, mais exige d'être conquise. Le symbolisme ne pouvait plaire qu'à ceux qui poursuivent, je cite, sur toute chose une expression exquise et extrême de leur âme et du monde, obtenue à tout prix. » Mais le morceau de bravoure du discours de réception de Paul Valéry reste à venir. Tout d'antiphrase, il va permettre au nouvel académicien de se livrer à un assassinat de son prédécesseur au 38e fauteuil sans jamais le citer et, au contraire, en s'abritant derrière des artifices tels que la phrase suivante. « C'est d'une France assez différente de la douce, distraite, délicate France et presque d'une France un peu lasse et apparemment désabusée que mon illustre homonyme a peint élégamment l'image véritable et trompeuse. » Rejoignant là André Gide, qui n'avait jamais caché que pour lui la prose d'Anatole France était d'une extrême fadeur, Paul Valéry en dresse le solde de tout compte, mais il le fait avec une ironie et un mordant qui, 80 ans plus tard, produisent toujours leur effet. Qu'on en juge plutôt par l'extrait qui suit. Les divinités sages et constantes qui prennent garde que nos lettres ne soient jamais brusquement et totalement altérées, ni qu'elles s'assoupissent trop longtemps dans l'ennui de la perfection, avait déjà formé et déjà fait paraître avec honneur dans la carrière celui-là même qu'il fallait pour ranimer au milieu de la confusion des langages quelques-unes des grâces des plus purs auteurs d'autrefois. Ces grâces, fort délaissées, n'en étaient pas moins incorruptibles. Et l'on vit avec plaisir et sans trop de surprise quelqu'un les reconduire au jour, quelqu'un qui vint bientôt se placer sans effort au premier rang des écrivains de son époque. Quelqu'un, messieurs, qui n'ignorant du tout ni les charmes ni les mérites, encore moins les faiblesses, les excès et les défauts des entreprises du moment, se distinguait par une sorte de prudence, par une modération rare et même téméraire en ce temps-là, par un tempérament fort habile des moyens consacrés à l'art. Il prenait insensiblement la figure et l'importance d'un classique entre tant d'inventeurs et de fauteurs de beautés audacieuses dont il représentait la négation la plus élégante. Le public sut un gré infini à mon illustre prédécesseur de lui devoir la sensation d'une oasis. Son œuvre ne surprit que doucement et agréablement par le contraste si rafraîchissant, d'une manière si mesurée avec les styles éclatants ou fort complexes qui s'élaboraient de toutes parts. Il sembla que l'aisance, la simplicité et la clarté revenaient sur terre. Ce sont des déesses qui plaisent à la plupart. On aima tout de suite un langage qu'on pouvait goûter sans trop y penser, qui séduisait par une apparence si naturelle et de qui la limpidité, sans doute, laissait transparaître parfois une arrière-pensée, mais non mystérieuse, mais au contraire toujours bien lisible, sinon toujours rassurante. Il y avait dans ses livres un art consommé de l'effleurement des idées et des problèmes les plus graves. Rien n'y arrêtait le regard, si ce n'est la merveille même de n'y trouver nulle résistance. Quoi de plus précieux que l'illusion délicieuse de la clarté qui nous donne le sentiment de nous enrichir sans effort, de goûter du plaisir sans peine, de comprendre sans attention, de jouir du spectacle sans payer. Heureux les écrivains qui nous ôtent le poids de la pensée et qui tissent d'un doigt léger un lumineux déguisement de la complexité des choses. Hélas, messieurs, certains, dont il faut bien déplorer l'existence, se sont engagés dans une voie toute contraire. Ils ont placé le travail de l'esprit sur le chemin de ses voluptés. Ils nous proposent des énigmes. Ce sont des êtres inhumains. Votre grand confrère, messieurs, n'avait point cette confiance exagérée dans les vertus de son lecteur. Il était moins ignorant des hommes. Alors après cette philippique, Paul Valéry brosse le portrait d'Anatole France, un portrait doux amer à souhait comme on va le voir. je cite Paul Valéry. Il était d'une courtoisie dont le premier effet était de ne jamais séparer les idées que l'on ose émettre du sourire qui les détache du monde. Il était bien naturel que sa gloire ne souffrît point de cette élégance. Vous savez tous à quelle hauteur prodigieuse elle atteignit en quelques années. On s'aperçut bientôt que cette gloire, insinuée si doucement, en arrivait à balancer celle des plus célèbres, et l'on se prit à admirer comme ce génie assez malicieux s'était élevé en se jouant jusqu'à la stature des colosses des lettres européennes de ce temps-là, les Tolstoï, les Zola, les Ibsen. Ces ouvrages légers qui ne prétendaient qu'à effleurer dangereusement ce qu'ils empoignaient et ébranlaient de toute leur force, l'ordre social et l'édifice de nos mœurs. Puis survient la conclusion, tout à la fois superbe et définitive, je cite « Je ne me flatte pas, messieurs, de vous peindre heureusement un homme si considérable que je n'ai fait qu'entrevoir un jour, tandis que votre mémoire est toute vivante pour la plupart d'entre vous. Il n'est rien de plus connu que l'espèce de passion qu'il nourrissait pour Racine. Je ne sais, en vérité, quel eût été le sentiment de M. Racine sur son enthousiaste zélateur. » Toutes les chances d'erreur sur la personne et même d'inintelligence de l'œuvre sont avec moi. Vous sentez, du reste, combien peut m'imposer une substitution si inégale de talent et quelle audace je me trouve d'essayer à ce portrait. Quand le devoir de composer cette oraison de louange m'est apparu avec précision, je n'ai pas laissé de le trouver bien redoutable. Quel beau sujet, me disait-on, et je pensais qu'il est des écueils admirables. C'est ce qu'on appelle un enterrement de première classe, et c'est un discours de réception qui, c'est le moins qu'on puisse dire, est loin d'être académique. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la postérité du prix Nobel de littérature de 1921 ? Le Lys rouge et le crime de Sylvestre Bonnard semblent seuls émerger de l'oubli. Véritable maître à penser de la jeune génération d'avant 14, Anatole France a sombré dans un certain oubli durant l'entre-deux-guerres, accusé par Paul Valéry notamment de n'être qu'un prophète du passé. Sa petite musique, à la fois suave et doucereuse, ne lui a pas survécu, et une certaine complaisance, jointe à beaucoup de naïveté, a même parfois pu lui être reprochée. Ses jugements sont sans doute excessifs, mais l'actualité d'Anatole France demeure aujourd'hui, semble-t-il, limitée aux seules études franciennes. Ce long calvaire est injuste. Une fois encore, le Lys rouge et le crime de Sylvestre Bonnard sont supérieurs à bon nombre des romans d'Émile Zola, comme il l'emporte sur la production de certains de ses contemporains, des frères Goncourt à Bourget, pour ne citer qu'eux.